Bien, à mon tour de remercier Daniel et Benoît d'avoir convié à intervenir dans ce séminaire qui va me permettre de présenter un projet avec une réflexion sur la façon dont les couverts sont perçus au sein des monastères cisterciens du Sud, j'entends. Sont-ils réellement frères ou sont-ils des sœurs? Je m'arrête en 1230 parce que la documentation sur laquelle je travaille s'effondre complètement après cette date. Le labor manuum que les moines cisterciens pratiquent au champ fit l'objet d'une théorisation et de débats dès les premiers temps de l'ordre, au point d'en devenir rapidement un marqueur fort. Il est néanmoins indéniable que ces discours devaient faire face à deux limites. La première fut la réticence, voire la résistance même, ou l'incapacité de certains à exercer cette activité. Bernard de Clairvaux le dit clairement, moi je ne suis pas capable de travailler dans les champs, je ne le fais pas. La chronique du monastère cistercien de Villiers, et tardive, certes, raconte que l'abbé Arnulf de Ghisselles lui-même, à la tête de l'abbaye de 1270 à 1276, estimait qu'un moine doit prier, lire, psalmodier, méditer et ne pas perdre son temps à se consacrer aux travaux des champs. La seconde limite est liée à des dispositions réglementaires. Outre le fait qu'il était indispensable de libérer du temps aux moines pour la prière, il ne leur était pas permis, sauf autorisation spéciale, de s'éloigner à plus de 2 heures de marche de l'abbaye afin de justement pouvoir participer aux offices dans l'abbatiale. Or, bon nombre de domaines grangiers se trouvent plus ou moins à au-delà de 2 heures de marche. Et donc, tout ceci justifie le recours au salariat ainsi qu'au convent. Le statut particulier de ces derniers n'est pas une création cistercienne, vous le savez, mais cabaldule. Cependant, c'est sans doute chez les moines blancs, mais aussi chez les chartreux, de l'institution des couverts, institution entre guillemets évidemment, ces hommes qui n'ont pas prononcé la totalité des vœux ne sont ni moines ni clercs et consacrent l'essentiel de leur temps à des activités manuelles, a atteint son plus fort développement. À l'égal des moines, les couverts sont nos frères et partagent nos biens tant spirituels que temporels. Ainsi s'achève l'article 4 de l'un des statuts cisterciens rédigé par le chapitre général de l'ordre les plus célèbres. Cela fait plusieurs décennies que l'on considère ces statuts non comme de strictes normes, mais comme de simples prescriptions. Les médiévistes ont parfaitement montré qu'il y eut de nombreuses adaptations et ont relevé une forte disparité d'un établissement à l'autre au regard de ces interdits, dans le temps, dans l'espace. Pour autant, la question des rapports de production concernant moines et couverts, et pas seulement des relations, je suis bien dans le rapport de production, n'a guère fait l'objet de réflexions, comme s'il n'avait pas été nécessaire de reconsidérer l'affirmation particulière de l'égalité entre les deux groupes après 1134, alors même qu'en 1188, toujours d'après le chapitre général de l'ordre, il devient interdit aux aristocrates, officiellement, de devenir couverts. Il est certain néanmoins que les cisterciens avaient réalisé une véritable révolution. Ils rompirent en effet avec la tradition des moines noirs qui ne permettait qu'aux seuls membres de l'aristocratie d'intégrer la clôture, même si, on l'a déjà dit, ils n'étaient pas les premiers. S'ils profitaient indiscutablement des bénéfices spirituels liés à leur statut, les couverts, ou frères-lés, n'en étaient pas moins séparés des moines dans l'abbatiale. Et là, pour le coup, dans la documentation du Sud, moi j'ai des tas d'exemples d'églises de couverts, réfectoires de couverts, dortoirs des couverts, etc. Seuls les moines avaient accès au chœur. Vers 1200, donc, moines et couverts peuplent le monastère cistercien avec d'autres membres de la familia, aussi divers que des donats, parfois des sœurs, et même au Portugal, on trouve des esclaves, c'est rare, mais il y en a, sans même parler des salariés. L'essentiel des publications sur les couverts a souvent éludé la question des rapports de production au sein des monastères et même l'a éludé. On y trouve évoqué la répartition différenciée des tâches, ou encore on aborde par le biais des analyses archéologiques du bâti la ségrégation spatiale entre moines et couverts au sein des abbayes, ou enfin on rappelle l'importance des couverts dans la production cistercienne, etc. Alors il est vrai que lorsque l'on se tourne du côté de la documentation, qu'il s'agisse d'actes dits de la pratique ou même d'écrits normatifs ou narratifs, eh bien, les données les concernant sont loin d'être prolixes, même si elles sont quand même plus nombreuses. Et là aussi, j'ai été très très surpris, surtout les couverts, sont-ils. Donc, moi j'en ai quand même un peu plus. Certains auteurs ont émis des propositions sur la relation donc qu'entretenaient Convers et Moine, mais non sur les rapports de production. Et ça commence, en fait, la première rupture, c'est 1949, avec James Denny, qui devient le représentant des tenants du manque de discipline des Convers, qui va justifier en retour la réaction de la hiérarchie et explique ainsi non seulement le déclin de l'institution des Convers, mais aussi celui de l'ordre cistercien à partir du XIVe siècle. Les Convers étaient tellement désobéissants que voilà, ça fout tout. Or, cet ouvrage a longtemps servi de doxa. À l'inverse, d'autres chercheurs ont insisté sur la forte domination exercée par les moines sur les Convers. C'est le cas d'Otto du Courneux ou de Jean Leclerc, qui considérèrent que l'état d'humilité des Convers avait même été transformé en celui d'humiliation, le terme étant très fort. Enfin, une sorte de troisième voie minimise depuis quelques années chacune des propositions précédentes, c'est-à-dire d'un côté Convers désobéissant et ambitieux, versus Convers soumis et dominé. Pour tenter d'ouvrir de nouvelles pistes, l'un des tenants, eh bien, c'est James France, dont la position globale sur les Convers dans le monastère cistercien est affirmée dès le titre, séparés mais égaux. Donc il considère. Donc les réflexions autour des Convers et notamment des rapports de production tournent un peu en rond, il en est tout autrement de celles qui portent sur la seigneurie monastique et sur le dominium ecclésiastique, de façon surprenante, non sollicitée par celles et ceux qui ont travaillé récemment sur les Convers. Parmi ces propositions, il y a d'abord le concept d'inecclesiamento de Michel Lovas, qui ne doit pas être réduit à ses seules implications spatiales. C'est vraiment un phénomène global avec un fort versant social. De même sont ignorés les travaux de Ludolf Kurenbourg et de Julien Demade sur la question des dépendances radicales et du servitium, car la société féodale a euphémisé pour la rendre supportable au plus grand nombre la domination. Le pape, il ne faut pas l'oublier, c'est le servus servorum Dei. La question n'est donc plus celle de la distinction entre libre et non libre qui prévalait à l'époque carolingienne. Au XIIe siècle, tous les hommes sont insérés dans des liens de dépendance, avec évidemment une gradation, mais sont soumis à un servitium. Tous, y compris les rois et les papes, le sont à l'égard de Dieu, hein, le Dominus suprême. Mais l'écrasante majorité l'est également vis-à-vis d'un autre homme, qu'il s'agisse d'un vassal envers un plus puissant que lui, ou encore d'un paysan qui s'est vu confier des tenures par un ou plusieurs seigneurs, laïcs ou ecclésiastiques. Le sud de la France, il ne faut pas l'oublier, c'est aussi l'espace où se développent au XIIe siècle les mentions de fief roturier pour désigner les tenures paysannes. Et les serfs languedociens et gascons, dont tous ne sont pas à plaindre, même certains vivent dans une très large aisance, ne s'engagent pardon, lors de leur hommage à amarrer et servirer leur seigneur. Ainsi, la question n'est pas tant de savoir si les couverts étaient indisciplinés, dominés par les moines de cœur ou leurs égaux. On peut trouver pour chacune des propositions des exemples qui vont s'annuler, hein. Mais bien de revenir sur le discours autour de frater, ce mot tiré de la parenté spirituelle si prégnante au XIIe siècle, qui renvoie à une relation horizontale. Ce mot, du coup, appliqué aux convers intégrés dans le monastère cistercien, traduit-il une réalité sociale ou maintient-il artificiellement un mythe originel d'emblée incompatible avec les fondements même de l'organisation des communautés telle qu'elle fut définie par l'ordre? À partir d'une documentation variée, parfois emplie de biais, constituée tant d'actes de la pratique, comme vous pouvez les voir ici, d'une documentation normative et narrative, donc le regard que je vais porter ira d'abord sur la façon de désigner les couverts, comment sont-ils désignés dans les actes de la pratique et d'indiquer leur présence, puis j'analyserai les formes de recrutement des frères-lais, ainsi que leurs fonctions et non pas leurs activités auxquelles certains ont accès. Et enfin, il s'agira de cerner véritablement les rapports de domination variables au sein des communautés. La question des rapports de production. Alors, la manière de désigner les convers et d'indiquer ou non leur présence dans les actes est essentielle, même si elle peut ne pas paraître tout à fait centrale. Elle témoigne en effet de la conception qu'on se fait au sein des monastères, des frères-lais et de la place qu'on leur accorde dans la communauté. Le choix du mode de désignation des converts varie globalement d'une abbaye à l'autre, mais la plupart du temps, que trouve-t-on? De préférence, ça va être Frater X ou alors Frater X Conversus. Au point que le mot frater, dans le sud, est longtemps et strictement réservé aux seuls converts. On gagne à tous les coups quasiment. Donc, il n'y a pas trop de problème. Retenons cependant que dans 4 des 5 abbayes fournissant des informations sur cette question, la décennie 1180 apparaît comme une rupture. Ainsi, à Gimont, jusqu'en 1188, on ne dispose que de 4 exemples de fratères associés à un moine. Et passé 1188, eh bien, il y a un affolement. Il y a de plus en plus de moines qui sont appelés fratères, hein, dans la documentation, donc il y a donc un bouleversement. L'analyse de leur présence dans les actes de la pratique révèle là encore des situations extrêmement variées. Trois exemples suffiront pour témoigner des écarts considérables qui peuvent exister avant 1200. À Gimont, les trois quarts des actes en mentionnent, ce qui en fait un laboratoire d'observation tout à fait exceptionnel. J'ai pu dresser une liste de 130 converts antérieurs à 1200. Comparé à Cîteaux, c'est quand même assez impressionnant. Valmaille représente une situation similaire à tous les autres établissements étudiés qui ne sont pas présents dans le tableau, à savoir environ un quart d'actes qui évoquent des converts. Et à l'opposé, Sylvanès, tout en bas, seuls 3% des 511 actes mentionnent des frères-lés, soit 25 fois moins qu'Agen. De surcroît, dans les cartulaires des deux abbayes gasconnes et languedociennes, on croise en moyenne 2,2 converts par acte, tandis qu'à Sylvanès, on est à 1,4 seulement. Alors, mais là, ce n'est pas vraiment un argument. Pourquoi? Parce que ce sont très souvent les mêmes individus qui sont présents dans les actes en tant que témoins, à l'image d'ailleurs, hein, de la pratique des moines en matière de témoignage, sont également très souvent les mêmes moines que l'on va retrouver dans les listes de témoins. Néanmoins, ces données brutes ne donnent pas accès aux évolutions perceptibles partout et de manière concomitante. Une rupture s'observe en effet au tournant des années 1180-1190. Elle est particulièrement sensible à Gijón, où la présence des converts dans les actes passe d'une moyenne de 80% entre 1145 et 1180 à 48% seulement après cette date. C'est, rappelons-le, le moment où le qualificatif frater est donné également aux moines et n'est plus exclusivement réservé aux couvents. À Valmagne, ce n'est pas tant le nombre d'actes qui diminue, mais le nombre de converts présents dans chaque acte va subir une forte érosion après 1189, alors même que le nombre de témoins ne cesse d'augmenter. Avant, on tourne autour de 7 converts. 7 converts, pardon, 7 témoins dans les actes, et au moment où le nombre de converts s'effondre, eh bien, on est plutôt autour de 10 individus, hein, donc il y a bien une rupture qui s'observe là aussi, il va y avoir une réduction par deux. Si les converts sont, alors je passe au recrutement. Les converts sont assurément recrutés initialement au sein d'une très large palette sociale. Et la rupture qu'introduit la prescription de 1188, interdisant a priori aux aristocrates d'accéder à la communauté des frères-lés, est-elle vraiment une rupture? Ne fait-elle qu'entériner une situation de fait, etc. On pourrait multiplier les questions. Les aristocrates ont fait et continueront à faire le choix de devenir converts, un choix radical donc, au sein du monastère cistercien. Mais. Si les exemples sont relativement fréquents, effectivement vers 1175, jusque vers 1175-1180, grâce aux études prosopographiques que j'ai menées, on peut vraiment trouver pas mal de converts aristocrates. Passé cette date, ils disparaissent quasiment de la documentation à la fois languedocienne et gasconne. Il n'en est plus que trois exemples seulement après ces années-là. Alors, je vous rappelle, hein, la documentation s'effondre à partir de 1210 et j'en ai plus après 1235. Il y en a peut-être eu encore d'autres. Voilà, la situation que j'observe. Alors, il est à l'inverse plus difficile d'identifier le niveau des paysans qui deviennent converts. Or, Valmagne offre un éclairage documentaire exceptionnel où l'on peut suivre certaines lignées paysannes au XIIe siècle sur 3 à 5 générations, c'est quand même assez exceptionnel. Qu'il s'agisse de Raymond Vertoin, de son neveu Guillaume, ou de la famille Bedos, ou de la famille Écart, les nombreux actes dans lesquels ils apparaissent comme acteurs et témoins les situent indiscutablement au sein des élites paysannes. Si d'autres, d'un niveau économique inférieur, sont également perceptibles parce qu'ils ont cédé une ou deux parcelles avant de devenir couverts, combien d'autres nous échappent totalement parce qu'ils n'ont rien cédé et qu'ils ont intégré le monastère avec la tenure qu'ils traînent. Il y a donc fort à parier que les converts témoins des actes n'étaient pas du tout issus des petites catégories paysannes. En gros, que va-t-on trouver? Des tenanciers, enfin en tout cas des gros tenanciers, des fils châtelains. Tous ces hommes ont cédé des terres ou des droits à la vie, ou ont vu leur tenure qu'ils exploitaient cédée par un seigneur. Ça veut dire, et ça c'est une première remarque qui me semble, même si c'est évident, importante, ils se situent tous dans l'orbite spatiale des monastères et de leurs granges qu'ils intègrent comme. Par ailleurs, lors des promesses de conversion ou des conversions réelles, on en a un certain nombre, hein, on en a même un beau paquet. Les actes de Berdus comme de Gimond reprennent régulièrement la formule si tamen sanus et in colonis de omnibus membris, qui normalement doit s'appliquer à tous. Cette formule devrait s'appliquer aussi bien aux moines qu'aux converts, comme l'exige la coutume de l'ordre. Cependant, quand on y regarde de plus près, sur les 24 occurrences de cette formule, deux seulement concernent des futurs moines, alors que 22 converts sont soit 11 fois plus, alors qu'on connaît à l'arrivée beaucoup plus de moines que de converts. Assurément, la bonne santé physique et la validité des membres semblent davantage exigées des futurs converts que des. À Valmane, c'est une autre formule beaucoup plus troublante qui n'est associée qu'aux converts et aux non-actes. Donus corpus meus et animam meam. Qui se croisent à 12 reprises entre 1168 et 1193, dans lesquelles, pardon, les hommes deviennent frères. Jamais une prise d'habit par un moine de cœur ne suppose cette donation de corps, et évidemment, cette donation de corps n'est pas sans rappeler les auto-éditions serviles très nombreuses qui apparaissent dès le 11e siècle. À une date malheureusement inconnue, Bernard de Clairvaux partagea son indignation dans une lettre adressée à tous les abbés face au comportement de certains d'entre eux vis-à-vis des converts, qui auraient dû, selon lui, être traités à l'égal des moines. Cette indignation ne fut pas partagée par tous. Un autre abbé de Clairvaux, Étienne de Lexington, affirme en 1228, pardon, que les converts ne peuvent demander à être considérés comme les égaux des moines, sans pour autant que la revendication dont il est question porte sur l'accès au cœur des. Mais il est vrai que la situation de 1228 n'est plus celle de 1150. À l'heure où Étienne de Lexington s'exprime, les converts se recrutent de manière quasi exclusive à l'extérieur de l'aristocratie depuis 40 ans. C'est bien l'idée même de ce statut de 1188, à savoir réserver l'accès à la communauté des converts aux seuls non-aristocrates, qui doit être soulignée, car elle traduit une réelle rupture dans la conception initiale du projet cistercien. En reconnaissant ainsi la reproduction au sein de la culture monastique de la domination aristocratique, on entérine le maintien après intégration dans l'ordre d'une inégalité sociale antérieure à la conversion. Mais au-delà de cet élément, la question de l'intégration des serfs dans le corps des converts a dû jouer un rôle autrement plus déterminant dans l'interdit énoncé en 180. Dès avant 1153, alors que le servage est interdit par les statuts de l'ordre, on perçoit la présence de serfs dans certains monastères. C'est à eux que se réfère clairement Bernard de Clairvaux dans cette lettre, lorsqu'il dit « Même si les converts ont été achetés à un très grand prix » Là, pose problème. Avant 1153, le convert du texte cistercien peut donc déjà être un crypto-serf. Car de nombreuses abbayes aussi ont une existence avant leur intégration dans l'ordre cistercien. Et ça, c'est fondamental. C'est le cas notamment à Valmagne, fondée 17 ans avant son rattachement à l'ordre en 1155, Mais c'est également celui de Grandcinq qui, pendant 31 ans, va vivre avant l'intégration dans l'ordre. Mais là, rien ne leur interdisait d'avoir des serfs. Ces établissements ont pu compter des serfs dans leur famille, intégrés par auto-démission, achat, donation, peu importe, ils deviennent converts. Certains médiévistes s'appuient sur le fait que des converts deviennent maîtres de grange pour arguer d'une égalité avec les moines. Mais qu'est-ce que c'est qu'un maître de grange si c'est un agent seigneurial, un bayle, dirait-on dans le sud, qui représente localement l'abbé, responsable du temporel. Le titre qu'il porte n'est d'ailleurs pas maître de grange, souvent dans le sud, mais procurateur grangier, à l'image de certains bayles parfaitement contemporains et à qui on attribue ce même titre à partir de l'extrême fin du XIIe siècle. Et qu'est-ce que l'on sait des bayles laïcs par ailleurs? Eh bien, ce sont presque toujours des serfs. Ils se sont engagés à amarrer et servir leur seigneur lors du serment qui lui prête. Donc partir de cette fonction de convers pour prouver l'égalité de traitement entre les moines, c'est méconnaître ce fait essentiel du système seigneurial connu sous les termes de ministérialité dans le Nord et de questalité en Gascogne, qui consistait justement à recruter préférentiellement les agents seigneuriaux parmi les membres les plus dépendants de la famille, et qui explique aussi en retour les nombreuses auto-démissions. Les converts de Valmagne ne font-ils pas, et eux seuls, don de leur corps à l'abbé? En cela, rapidement, finalement, les cisterciens ne dérogent absolument pas à la règle qui prévaut depuis longtemps au sein des seigneuries non ecclésiastiques, non monastiques et même monastiques d'ailleurs. J'en viens au servicium imposé aux converts. L'interpellation de Bernard de Clairvaux témoigne de ce que les converts, certes égaux dans la grâce de rédemption, comme c'est dit à la fin, ne sont pas ici-bas simplement traités en subalternes, mais bien en inférieurs par certains abbés, j'insiste là-dessus, dès avant le milieu du XIIe siècle, où l'on voit d'emblée les écarts donc d'un monastère à l'autre en fonction de l'attitude de l'abbé. Dès les années 1150, les actes normatifs, comme les officia ecclesiastica ou l'usus conversarum, donnent eux aussi à avoir un traitement inégal, toujours au détriment des frères. Ceux-ci assument seuls toutes les tâches ingrates dans l'enceinte du monastère, telles que l'entretien de la vaisselle, des latrines, etc. Eux seuls. Deux textes normatifs précisent que leur nourriture et leurs vêtements doivent être plus rustiques que ceux des moines. Leur statut inférieur est aussi clairement établi par l'injonction d'obéir aux ordres des moines qui pourraient les accompagner lors de tout déplacement ou de toute activité. Assurément, les converts sont des frères, différents des moines, ont tout de suite cause de rang moindre, comme le révèlent les deux dernières prescriptions. Et que dire du rite attendu d'eux seuls, jamais des moines, qui accompagne la profession des converts lors de leur intégration définitive dans la communauté à l'issue de l'année de Domitien? Après la prosternation, là c'est la même chose que pour les moines, ils se relèvent sur commandement. Puis, ils se mettent à genoux, joignent leurs mains, les placent dans celles de l'abbé et lui promettent obéissance jusqu'à la mort. Au même moment, les chartriers méridionaux s'emplissent d'hommages serviles qui se déroulent selon le même rite auquel sont soumis les seuls convers. L'obéissance à l'abbé n'est pas le propre des convers, évidemment. Les moines s'y soumettent également et c'est même l'un des points forts de la règle bénédictine. Mais ce rite supplémentaire attendu des seuls frères laïcs révèle bien leur statut qui les place à part. C'est ce même statut. Qui monachi non sunt, précise Innocent II en 1232, en 1132, pardon, reprenant une formule énoncée par le petit exemple, qui leur interdit l'accès au chœur, l'élection de l'abbé, l'élection des livres liturgiques, etc. Ce que quelques historiens, de façon surprenante, mettent au compte d'une discrimination, mais ça n'a aucun sens. Ils ne sont pas clairs, il est hors de question qu'ils accèdent au cœur. Donc ça, on ne peut pas mettre ça du tout. C'est aussi ce même principe de la stricte séparation des clercs et des laïcs qui poussa les cisterciens à séparer spatialement les deux groupes. Là aussi, est-ce que c'est la discrimination? Pas tout à fait sûr, hein. Cette cohabitation, toutefois, prend des allures de quartiers séparés où chacun doit rester à sa place. Or, l'ordonnancement cistercien est centré sur ce qu'on pouvait définir comme constituant le caput monastérii, l'espace de résidence et d'activité des moines, s'apparente à bien des égards à ce que dans le sud on appelle le caput castri, qui regroupe dans un même espace les demeures aristocratiques, auquel est accolée la zone réservée aux convers. Dans ces conditions qui placent les convers en position d'infériorité, que les sources narratives cisterciennes les évoquent peu, il n'y a donc rien de surprenant non plus. Un seul aspect va me retenir ici, c'est celui du rapport au châtiment. Il y a plusieurs récits dans le Grand Exorgue qui évoquent tout cela, mais aussi les recueils d'exemplats nous montrent que les châtiments envers les couverts sont beaucoup plus lourds que ceux appliqués aux moines. Le moteur de recherche du Gaob facilite véritablement les comparaisons. Dans la première colonne, donc, j'ai pris tous les exemples, tous les exemplats dans lesquels apparaissaient des ecclésiastiques. On voit bien que les moines intéressent, les évêques aussi, les convers, c'est 30, nettement moins que les seuls. Donc, premier élément, le désintérêt, 12 fois moins de convers que les moines. Les colonnes 2 et 3, les cas de désobéissance envers un supérieur, par exemple un moine qui ne tient pas compte d'un ordre d'un abbé, sont aussi inégalement répartis. Alors évidemment, les évêques et les abbés, par définition, ne désobéissent pas, puisqu'ils sont les supérieurs hiérarchiques, donc ça ne pose pas de problème. Le seul cas de l'archevêque qui désobéit, en fait, il refuse d'obtempérer à un ordre du roi qui lui conseille de brûler des livres des Juifs. Il a été très passager. Mais globalement, qu'est-ce que l'on constate? Alors évidemment, avec de tels chiffres, les statistiques ne veulent rien dire, hein, on est bien d'accord. Mais c'est l'idée qu'il faut retenir. Eh bien, en proportion, ce sont toujours les converts qui désobéissent le plus, ce sont eux seuls, et c'est ça qui compte, eux seuls qui vont subir des châtiments corporels. Et ces châtiments corporels sont tellement poussés que, dans les trois quarts des cas, ils en meurent. Donc on a bien ici des phénomènes de maltraitance. Bon, le convert peut donc être bastonné, ça pose pas de problème. Et ce qui m'intéresse, c'est que tous ces exemples-là ont été rédigés entre 1165 et 1181, donc avant le XIIIe siècle. D'autres récits du Grand Exorgue de Cîteaux révèlent à mots à peine couverts des révoltes contre les moines et ou l'abbé. Alors si, dans la première moitié du XIIIe siècle, on voit bien des moines donner la mort à leur abbé, ils le font presque toujours de manière individuelle. C'est un moine s'en prend à l'abbé. Dans le cas des convers, ils vont tuer l'abbé des moines, comme à Bodlo, Elsborn ou Eberbach. Ça fait systématiquement intervenir le groupe, un groupe de convers, et non pas un seul individu qui aurait potentiellement perdu la tête. Mais ça prend donc la forme d'une rébellion. Il s'agit bien d'une rébellion, comme on le trouvera plus tard, à Fontfroide, qui va éclater au sein de l'enclos monastique. J'essaye de ramener tout ça dans une tentative d'explication du système cistercien. L'ambition initiale de l'ordre repose sur un idéal monastique qui ne peut être atteint que par l'autonomie afin d'éviter les possibles contacts avec la société. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre la recherche du désert. Une communauté repliée sur elle-même, entre guillemets évidemment, vivant en autarcie et dépendant nullement d'autrui. Dans ce cadre, donc, le travail manuel que devait fournir les moines devaient occuper une place importante, vitale pour l'accomplissement spirituel et sociétal recherché. Et tout le paradoxe réside dans cette ambiguïté liée au fait que l'abord peut tout à la fois être valorisé et valorisant, comme base de perfection monastique, et donc voie du salut, ou à l'inverse apparaître comme un marqueur de servitude et du coup malédiction dans une communauté qui n'accueille que les adultes. Là est aussi une spécificité de l'engagement cistercien, qui diffère foncièrement de celui des moines noirs. Les oblats, c'est-à-dire ces enfants confiés très jeunes à l'abbaye, qui quittent donc très précocement leur habitus aristocratique pour être modelés par l'esprit bénédictin des moines noirs, n'existent pas chez les cisterciens. Le chapitre général de l'ordre interdit aux filiales d'accueillir les enfants comme novices, ça veut dire que seuls les aristocrates adultes intègrent la clôture cistercienne comme moines. Et lorsqu'ils prennent l'habit, eh bien, ils ont un rapport particulier aux paysans sur lesquels ils ont eu l'habitude d'exercer leur dominium, voire leur mépris. La conversion comme convers de certains aristocrates apparaît dès lors comme un mode d'humilité radicale, traduisant l'acceptation des deux versants de ce mot, où l'asservissement volontaire au service de la communauté et de Dieu est envisagé comme la seule voie de salut. Des années 1220 à 1240, 1280, ce que les cisterciens mettent en place relève d'une forme très poussée du service domanial, qu'on peut qualifier de soumission totale. Intégrés à la communauté, les converts, que je considère comme des serfs, exploitent les terres dont la totalité des productions revient à l'abbaye, à l'image de la réserve seigneuriale. Là se situe la seconde spécificité cistercienne. Leurs domaines sont exploités en faire-valoir direct, contrairement à ceux des moines noirs dont l'essentiel des terres est exploité dans le cadre de la tenure, confiée à des paysans ou à des serfs. La première implication de ce constat est simple, alors que la rente bénédictine peut ne représenter qu'une modeste part de la production, selon le type de contrat passé avec le tenancier, c'est en revanche la totalité de la production qui intègre la grange cistercienne et donc l'abbaye, grâce essentiellement aux converts, dont les charges d'entretien sont par ailleurs faibles, comme le montrent les prescriptions sur l'alimentation et sur le vêtement. Ce qui veut dire que les cisterciens ont des capacités de redistribution, mais aussi de commercialisation nettement supérieures à celles des bénédictins, en un temps où la forte croissance urbaine aboutit à une augmentation non moins importante de la demande. Ce choix de la forte insertion dans les courants commerciaux opérés par certaines abbayes leur permet de dégager des quantités importantes de nouvelles. Grâce à elles, ils vont investir dans la terre essentiellement, ou en rachetant des droits seigneuriaux, mais aussi dans les équipements, comme les moulins, les forges, etc. Mais ils vont aussi redistribuer sous forme d'aumônes aux pauvres ou de prêts, le plus souvent gagés. Ce faire-valoir direct permettant aux cisterciens d'accumuler d'importantes quantités de liquidités a de fortes incidences tant économiques que sociales. Là est incontestablement le nœud de la puissance. Cette puissance est indiscutablement due à l'intégration des converts et au servicium total qui est exigé. Ce servicium total est également du fait même que les converts, le convert, aussi un religieux, c'est un frère intégré dans la communauté et qu'il sert donc ainsi totalement Dieu. Ici, le servicium dei, l'idéologie du service généralisé et fondé divinement, a permis de légitimer tout en la masquant la domination seigneuriale que suppose le servicium corvée ou le servicium ponction. C'est statutairement finalement que les converts cisterciens sont les serviteurs de Dieu et partant les serviteurs tout court au sens fort du terme. Ces hommes qui ont intégré la clôture sont placés sous la stricte autorité de l'abbé, comme les moines, mais peuvent également obéir, mais doivent pardon, également obéir à n'importe quel moine. La distinction fondamentale établie au sein de la communauté entre les deux groupes réside dans la différence de nature de leur engagement religieux. Tout découle de là, car c'est bien leur condition de frère-lait, dévalorisé, homme qui sunt, qui a pour conséquence ce double devoir de soumission. Le système du domaine granger cistercien peut apparaître comme un épiphénomène finalement à l'échelle de l'Occident, mais il imite malgré tout tout l'espace d'une myriade d'enclaves rendues au service domanial jusqu'à ce que les cisterciens se tournent à partir de la seconde moitié du XIIIe siècle vers d'autres formes d'exploitation, de faire-valoir indirect. La seule Bourgogne compte entre 200 et 220 granges. Il n'y a pas de convers, ça ne marchait pas. Les quatre monastères gascons de cette étude contrôlent tout de même 52 domaines qui exploitent des converts. Ils sont attachés à l'abbaye et à la grange, comme le rappelle une lettre d'Alexandre III à Simonès en 1162. Ça constitue l'aspect le plus patent de l'inecclésiamento cistercien, accompagne et conforte l'autre spécificité du domaine granger, celle d'être exploité, donc en faire valoir. En rejetant le système de la tenure, qui justifiait l'accueil de converts dans la familia monastique et le recours au salariat, la grange recrée une forme de dépendance radicale plus poussée que ne le fut même la manticalité des courtises carolingiennes. Il faut absolument cesser de dire que les cisterciens ont refusé le système seigneurial, comme on le trouve encore un peu partout, dans de nombreuses publications. Continuer dans cette voie rend totalement inintelligible le fonctionnement même de la grange cistercienne et contribue à maintenir une terrible confusion. Ce n'est nullement le système seigneurial qui est rejeté par les cisterciens, mais une partie seulement de celui-ci, à savoir le système de la tenure. Car les cisterciens l'ont même renforcé, ce système seigneurial, en restaurant un système domanial total par la Constitution gestion de l'ensemble de leurs biens, on peut s'en faut, en réserve seigneuriale, exploitée dans un premier temps par l'État. À l'instar des réserves des seigneurs laïcs, elles ont pour vocation première de permettre l'autonomie de la communauté dans son entièreté. Et les cisterciens y sont non seulement parvenus, donc pour l'écrasante majorité, mais ont surtout largement dépassé ces limites. Si, dès avant l'époque carolingienne, le grand domaine devint bipartite, c'est bien parce que se posait crûment un problème de main-d'œuvre dont on avait peine à maintenir, malgré le statut d'esclave, des individus exploitant alors les terres, et parce qu'on se rendit compte qu'il était préférable d'accorder un peu d'autonomie aux esclaves en les chasant sur un monstre. C'est bien cela le problème de la main-d'œuvre qui contraignit les maîtres à adapter les modes de gestion des domaines. Autrement dit, le vrai système seigneurial, ou tout au moins le plus abouti, c'est celui de la réserve. Et en quoi les converts diffèrent-ils fondamentalement des individus formant la manquipialité, telle que l'a définie Ludolf Couronnebourg, mais dans une version que le domaine granger rendait plus contraignante? Les cisterciens sont donc parvenus, autrement que par l'esclavage, à fixer une main-d'œuvre docile, soumise à l'abbé via le serment hommage prêté lors de l'entrée de la communauté, et contrainte à œuvrer au seul bénéfice du monastère, qui engrangeait l'intégralité des productions de l'agriculture, de l'élevage et de l'artisanat. Produire était la première fonction des converts, qui ne pouvaient espérer atteindre le paradis qu'en apportant cette contribution à la communauté. Là était le contrat. Et si l'on se rappelle par ailleurs de la lettre du pape Alexandre III, intimant l'ordre aux évêques des diocèses voisins de celui de Rodez, où se trouve l'abbaye de Sylvanès, de traquer les converts qui ont fui ce monastère, il est également clair que les cisterciens disposent de moyens très efficaces de recherche des fuyards, qui s'apparentent davantage aux méthodes mises en œuvre dans l'Antiquité pour attraper les esclaves en fuite, qu'aux moyens extrêmement réduits auxquels pouvaient avoir recours les détenteurs laïcs de serres au même moment. Un seigneur laïc qui va activer ses réseaux, ça va rarement sortir du comté. Là, on s'étend sur plusieurs diocèses. Si l'on se souvient enfin que la nourriture des converts est plus rustique, hein, on voit bien pourquoi et comment les administrations sont devenues le plus souvent de véritables rouleaux compresseurs seigneuriaux, sans rivaux possible. Si les discours semblent parfaitement normalisés à la fin du XIe siècle, les propos d'Étienne de Citton sont aussi le signe que cette normalisation n'est toujours pas acceptée en 1228 par les principaux intéressés, puisque certains converts demandent à être considérés comme des égaux d'élus. Certes, ces hommes qui quittaient tout pour intégrer le monastère y trouvaient en partie leur compte, à commencer par les retombées des bénéfices spirituels auxquels ils étaient associés. Mais la question est aussi de savoir si le choix que firent la plupart des paysans était volontaire et raisonné, ou s'il avait été fait par défaut. Car il est un autre élément qui a joué un rôle crucial. Les converts paysans se recrutent essentiellement, si ce n'est exclusivement, dans le périmètre des domaines grangers, et ils intègrent le plus souvent le monastère à l'occasion de la cession, par donation ou vente, des parcelles qu'ils exploitent, soit comme tenanciers, soit comme serfs, d'un an sous l'entasse. Une fois la parcelle cédée, les tenanciers ne sont pas en mesure d'en acquérir une nouvelle en raison du montant des acates, en gros, ça correspond au droit d'entrée, permettent de se faire concéder une tenure qui explose au XIIe siècle dans cet espace. Et qui va donc limiter ses possibilités aux seuls paysans les plus aidés. Vous étiez un petit tenancier, votre seigneur donnait votre parcelle, vous n'aviez pas le choix, hein, il fallait suivre la parcelle. Aussi, lorsque les seigneurs cèdent leur parcelle, ben, la plupart des paysans n'ont pas d'autre choix que de prendre le chemin du monastère. Dès le début du XIIIe siècle, le recrutement des converts se tarit fortement en Languedoc et en Gascogne. Et comme les hommes qui intégraient la clôture n'étaient pas autorisés à se reproduire, bien le vieillissement progressif de la population des Flarelais et son renouvellement aboutirent à vider les granges de leurs bras. Le phénomène s'accentue encore essentiellement à partir des années 1240, lorsque les monastères cisterciens réinjectèrent sur le marché de la terre des dizaines de milliers d'hectares, jusque-là exploités par les couverts, de plus en plus par les salariés sans doute, à l'occasion de la fondation de Bastide et de Villeneuve, tant dans le sud-ouest que dans le bassin parisien, que dans la plaine pagane. Vous avez là des milliers de tenures qui, cette fois-ci, vont être dispensées de droits d'entrée afin de rendre l'opération attractive, qui sont proposées aux communautés rurales environnantes, pas va provoquer un véritable appel d'air qui offre aux paysans depuis des milliers des possibilités d'installation impensables dans les conditions intérieures d'un monde plein avec des montants d'ACAT qui valaient un prix. C'est bien la conjonction de ces trois phénomènes qui met le système à mal, le système granger, fait vaciller finalement la puissance de bon nombre de monastères cisterciens. L'analyse des textes portant sur les couverts montre donc une situation fortement dégradée, en fait, dès les années 1150, dans certaines abbayes, on reprend les propos de Bernard de Clairvaux, tout comme aussi, il peut temps de développer les actes issus du chartrier de Sylvanès. Est-ce le cas de la plupart d'entre elles ou d'un faible nombre? En fait, les conditions locales ont énormément varié, y compris dans le temps, selon l'attitude des abbés, mais aussi les moines de Clairvaux. Cette attitude a également pu être influencée par le type de recrutement initial. Qu'est-ce que l'on constate à Sylvanès, où ils sont mais très peu présents, hein, vous vous souvenez, 3% seulement des actes. Eh bien, les converts, qu'est-ce qui est donné? On donne des manses avec corvée, c'est-à-dire que ceux qui exploitent ça, ce sont des saints. Et c'est ce type de donation qui occupe les trois quarts du quartier. C'est-à-dire que les converts à Sylvanès étaient déjà des saints avant, d'où le mépris. Et donc, il est hors de question qu'on parle d'eux dans les actes, 3% seulement des actes. A l'inverse, à Gimont, eh bien, ce sont essentiellement, en revanche, des tenures, avec des hommes dits libres qui sont scellés. Et donc, une considération complètement autre. Malgré tout, il semblait bien que le sort de tous les converts bosses bascule au plus tard au cours de ces décennies 1180-1190. Le chapitre général est fait globalement antérieur à une pratique plus ancienne, en grande partie liée à l'importance de la dot également, avec laquelle le candidat se présentait à la porte du monastère. La cession d'une parcelle et de quelques brebis avait de fortes chances d'orienter l'individu vers le groupe des converts et non vers celui des moines. Cette prescription de 1188 tente surtout de masquer, par le vocabulaire, un phénomène qui ne cesse de croître dans l'enceinte des abbés, à savoir la servitude des abbés, initialement rejetée par le chapitre général. Les exemples de converts serfs sans être légion témoignent là encore de pratiques apparemment fréquentes dès avant 1153. Et leur nombre 3, avec l'exigence faite aux seuls frères-lais de donner leur corps et de prêter hommage à la paix. Le tour de force des cisterciens est d'avoir conçu une organisation qui s'assurait la fixation de la main-d'œuvre autre que monacale, tout en poussant à l'extrême le servitium dei, qui, loin d'être une simple métaphore d'un discours au service de la domination, était entièrement assuré par sa mise en pratique. Si, lors de sa conception, il avait pour vocation à créer une communauté idéale d'égaux, la réalité des faits conduisit le chapitre général à prescrire un demi-siècle plus tard le statut de 1188. Car les converts des domaines grangiers ne sont pas frères ou sœurs, mais sont bel et bien frères et sœurs. Tout à la fois laïcs et religieux, vivant dans la clôture de l'abbaye ou de la grange, leur labor manoum est entièrement dédié à Dieu et dévoué à la communauté. Je vous remercie de votre attention.